Bonjour sœur Monica.
Bonjour Laurence.
Alors sœur Monica, vous êtes membre des fraternités apostoliques de Jérusalem. Vous êtes déléguée diocésaine pour la pastorale des jeunes. Dimanche 25 octobre à la cathédrale de Tarbes, au cours de l'Eucharistie présidée par Monseigneur Brouvet, vous avez, en présence de sœur Cécile, qui est la déléguée de votre prieur général, prononcez vos vœux définitifs, sœur Monica. Alors, on peut désormais dire que vous êtes consacrée au Christ. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, sœur Monica, être consacrée au Christ?
Oui, donc maintenant je suis consacrée au Christ pour toujours, comme nous le prononçons dans notre formule de vœux. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être consacrée au Christ? Et un des débuts de ma réflexion a été une question qu'une jeune un jour m'a posée. Elle demandait ben, qu'est-ce que ça veut dire être consacrée? Donc enfin, je lui avais répondu, c'est être épouse du Christ. Et elle avait dit, mais en fait, est-ce que le Christ, il a plusieurs épouses? Donc très bonne question, parce qu'effectivement, quand on est en communauté, déjà, on a plusieurs sœurs, donc on est plusieurs religieuses. Et dans le monde entier, il y a aussi des milliers de religieux, religieuses. Donc comment, en fait, se comprendre comme unique épouse du Christ dans cette pluralité? Donc en fait, c'est un peu l'objet de ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. J'ai pensé à faire un petit topo en 3-4 points pour essayer d'entrer un peu plus dans ce mystère de la consécration au Christ pour toujours. Alors tout d'abord, vous avez certainement entendu que la vie consacrée anticipe le ciel. En fait, notre vocation au ciel, c'est d'être unie à Dieu. Et il faut un peu, pour comprendre la vie consacrée, se remettre dans le dessein de Dieu qui est de s'unir l'humanité, c'est-à-dire nous, chacun personnellement et tous ensemble. Au ciel, en fait, on a tous, je pense, en nous un désir de communion, d'être parfaitement compris par les autres et de comprendre parfaitement les autres. Et au ciel, c'est ce qu'il y aura. Saint Jean-Paul II, il dit qu'au ciel, il y aura une intersubjectivité parfaite, c'est-à-dire qu'on se comprendra parfaitement les uns les autres. Et donc le terme exact de ce qu'il dit, c'est qu'il parle de l'union d'une parfaite intersubjectivité qui unira tous ceux qui prennent part à l'autre monde, hommes et femmes, dans le mystère de la communion des saints. Voilà, donc au ciel, il y aura un unique époux qui sera Dieu et une unique épouse, l'humanité, qui sera parfaitement réunie et restaurée. Donc ça, c'est un petit peu pour la vision du ciel, de ce que nous vivrons au ciel. Mais la deuxième question, donc c'est aussi le deuxième point, pourrait être comment comprendre l'humanité qui est une alors que nous sommes plusieurs? Comment se comprendre à l'intérieur de cette humanité alors que, voilà, on voit qu'il y a Laurence, Pierre, Jacques, Monica, Rita, etc. En fait, pour cela, il faut essayer de comprendre plus précisément et plus profondément ce qu'est une personne humaine. Parce qu'en fait, notre monde, notre société, on est très marqué par la conception d'une personne comme un individu, c'est-à-dire quelqu'un un peu qui peut s'autosuffire. Et cette définition de la personne humaine a vraiment marqué notre société. Avec une telle définition, on peut avoir l'impression que chacun est une entité autosuffisante. Et il y a des théologiens qui ont scruté un peu les pères de l'Église, qui avaient une autre vision de ce qu'est la personne humaine, une vision beaucoup plus englobante. Avec une telle définition, nous pouvons avoir l'impression que chacun est une entité autosuffisante. Et les pères de l'Église prennent l'image du miroir brisé en mille morceaux au moment du péché originel pour signifier que l'humanité était une à l'origine et qu'elle est devenue mille morceaux. En fait, voilà, le fait qu'on se conçoive comme des individus un peu en vase clos, c'est une des conséquences du péché originel. À l'origine, on avait une conception en fait de l'humanité où l'autre n'était pas opposé à nous, mais quelque part, il y avait une certaine unité. Et je trouve que cette image du miroir dit bien cela. Il y avait le miroir 1 qui était l'humanité une devant Dieu. Et quand il a été brisé par le péché, il est devenu mille morceaux. En fait, la question, c'est de voir comment on se comprend comme personne humaine. Est-ce qu'on est plus du côté du miroir brisé ou plus du côté du miroir 1 ? Et notre société, en fait, est marquée par cette conception du miroir brisé avec la notion d'individu. Benoît XVI est quelqu'un, notamment, qui a analysé cela et qui voit la personne humaine, qui donne la définition d'une personne humaine comme un être de relation. Et je pense qu'à partir du moment où on se conçoit comme être de relation, bah, on peut plus entrer dans cette humanité une et se concevoir aussi comme en même temps l'unique épouse du Christ, mais toujours en relation les uns avec les autres. Et du coup, le dernier point que je voudrais développer, c'est le fait que toutes nos relations passent par le Christ, que dans la vie consacrée, il y a toujours le Christ qui est là avec moi, et tout, en fait, doit passer par lui, avec lui et en lui. Et c'est comme ça qu'on peut ajuster toutes nos relations et y trouver une joie, une paix et une justesse. Mon quatrième point, c'est le fait que la synthèse de tout ça, en fait, c'est rejoindre le mystère de l'Église. Donc l'Église, c'est le Christ. L'Église, c'est le corps du Christ. Et l'Église, elle est une avec celle du ciel et de la terre. Il ne faut pas voir l'Église comme il y a l'Église au ciel et l'Église sur la terre. Il y a une seule Église. Et entrer dans cette relation avec le Christ comme consacré, c'est comme, pour moi, c'est comme déjà mettre un pied dans l'éternité, au ciel, et en même temps on est toujours sur la terre, de faire ce lien donc entre la terre et le ciel, et en même temps avec les autres, parce que le Christ aime vraiment chaque personne, et je pense en tant que consacré, on est appelé à entrer vraiment dans ce regard de Jésus pour chacun, jusqu'à nos sentiments en fait. On aime tellement le Christ, on ne peut pas ne pas aimer les personnes qu'il aime. Et donc la vie consacrée, ben, c'est aussi ça, c'est commencer à entrer dans le regard du Christ qui fait que l'autre à côté de moi, voilà, il n'est plus un ennemi, il devient un ami, il devient celui pour qui j'ai le désir qu'il est le meilleur. Voilà, on n'est plus une île tout seul, mais on entre dans cette humanité que le Christ aime et qu'il veut épouser.
Alors, sœur Monica, vous parlez beaucoup du lien entre la terre et le ciel. On entend ce mot d'éternité. C'est quelque part, lorsque vous avez prononcé vos vœux définitifs, vous avez ce lien d'éternité avec le ciel ?
Tout à fait. En fait, dans notre formule de vœux, il y a ce « pour toujours » qui est la grande différence avec les premiers vœux ou le renouvellement des vœux que j'ai fait dans le passé. Maintenant, c'est « pour toujours ». Et personnellement, j'ai vraiment eu l'impression de faire un petit pas dans l'éternité, parce qu'effectivement, voilà, c'est un lien d'éternité avec le Christ. Je pense que c'est quelque chose de très profond.
Voilà, un deuxième point que je voudrais souligner, vous parlez du regard du Christ à travers les autres. C'est quoi ce regard du Christ à travers les autres ? C'est voir le Christ dans chacun des autres ?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que plus on aime le Christ, plus on veut agir et réaliser ce que lui veut. Et ce que lui veut, c'est aimer infiniment chacun. Et donc, c'est entrer dans son regard jusqu'à ressentir un peu le battement de son cœur pour chacune des personnes qu'il aime infiniment.
Alors, sœur Monica, vous parlez de cet amour pour le Christ, de cet amour inconditionnel. Est-ce que pour les personnes mariées, les personnes, même les jeunes, tout court, il existe aussi cet amour ?
Oui, je pense que, en fait, cet appel à aimer par lui, avec lui et en lui, à l'intérieur de la vie consacrée, c'est avant une consécration, c'est un appel à la sainteté. En fait, c'est un appel pour les baptisés, tous les baptisés. Et d'ailleurs, c'est aussi, je pense, ce que vivent les saints, en fait, de finalement toujours passer par Dieu, vivre toutes ces relations en Dieu. Ça fait partie de l'appel général à la sainteté.
Sœur Monica, je rappelle que vous êtes déléguée diocésaine pour la pastorale des jeunes. Vous accompagnez beaucoup de jeunes autour de vous. Vous avez donc prononcé vos vœux définitifs le 25 octobre dernier. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à des jeunes qui seraient dans cette incertitude de l'engagement, Sœur Monica ?
D'oser se lancer, d'oser faire le pas, parce que je pense qu'on peut être plus malheureux de ne pas avoir osé faire un pas que de finalement avoir décidé d'avancer à un moment donné de sa vie. On n'est jamais perdant quand on ose se lancer. Et aussi que c'est une immense joie. J'ai toujours eu une joie profonde depuis le jour où j'ai osé faire ce pas. Le Seigneur m'a jamais, jamais abandonné. Voilà, quand c'est notre appel, notre vocation, le Seigneur est là. Il donne vraiment au centuple ce qu'on lui a donné. Donc, ose.
Merci beaucoup, sœur Monica, pour ce beau topo, ce topo très riche d'enseignements que vous nous avez partagé. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cet enseignement sur le podcast de Radio Présence Visage d'Église en Bigorre, parce que je pense qu'il faut qu'il soit réécouté, ça mérite de le réécouter. Sœur Monica, je rappelle que vous avez prononcé donc vos vœux définitifs le 25 octobre dernier à la cathédrale de Tarbes au sein des fraternités apostoliques de Jérusalem. Merci beaucoup, sœur Monica.